J'ai un problème, moi, avec le mot espace, et donc j'espère qu'on pourra en débattre tout à l'heure. Je ne vais pas m'énerver tout seul. Et le mot collectif aussi. Donc, le reste, ça va. Bon, il ne reste plus grand-chose, il reste improvisation et sonore, mais bon. Mais j'ai décidé, plutôt que d'essayer de coller à tout prix à ce thème, sur lequel, au fond, je n'ai pas grand-chose, je crois, à dire sur l'espace et sur le collectif, ou alors de manière indirecte, j'ai préféré essayer de creuser les autres, ce qui restait autour et de vous parler de ce sujet-là, l'algorithmique du style et en quoi je pense qu'elle change les choses. Et je pense que ça peut donner lieu à débats contradictoires et à questionnements. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'au fond, donc ce projet ERC, là, dont on est à peu près au milieu, il parle du style. Il parle de la créativité, en fait, au départ, et du style. Et j'aurais à dire pourquoi, quel rapport, en fait, entre créativité et style, et puis je vais venir progressivement au problème de l'improvisation, etc. En fait, là, j'ai une petite animation que je montre souvent, qu'on a faite. Pour dire que Picasso, qui est considéré comme un grand créateur, bon, peut-être d'ailleurs exagéré, c'est pas le propos, il a créé plein de choses, il a créé le cubisme, il a inventé des styles. C'est vraiment un des inventeurs de styles en peinture. Mais avant d'inventer des styles, il était très bon pour imiter des styles. Il a appris à peindre dans le style de tous ses prédécesseurs. C'était un grand virtuose de la peinture au sens tout à fait conformiste du terme et classique du terme. Et ce que j'essaie de dire là, dans cette animation, c'est qu'avant, il a travaillé, on le sait, sur les taureaux. Il a essayé de dessiner les taureaux de plein de manières possibles en s'inspirant de vrais taureaux, de photos de taureaux. Bonjour. Jusqu'à ce qu'à force de jouer avec tout ça, il arrive à l'idée de, par exemple, simplifier, essayer d'aller à l'essentiel. Et je fais une histoire très raccourcie du cubisme, ça serait probablement, les historiens de l'art seraient horrifiés. Mais quand même, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur l'idée qu'avant d'inventer, avant de créer, il faut déjà imiter, il faut déjà comprendre, il faut s'imprégner de ce qu'il y a eu avant. Et Picasso est un bon exemple, et d'ailleurs il y a plein de tableaux où Picasso a essayé de reproduire des tableaux qui avaient été faits par ses prédécesseurs, Velázquez, El Greco, Manet, on cite toujours ça, parce qu'il savait particulièrement bien dessiner, peindre dans ces styles-là. Jusqu'à ce que, évidemment, au bout d'un moment, ça se transforme. Et donc, et qu'il amène des nouvelles idées, et puis qu'il continue. Et donc, quand on parle de créativité, moi ce qui m'intéressait, je suis informaticien, j'ai oublié de le dire, Lipsis, c'est un laboratoire informatique, c'est au fond, voilà, qu'est-ce qu'un informaticien peut faire là-dedans. Sur la créativité à proprement parler, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire grand-chose, mais sur le style, oui, parce qu'au fond, quand on regarde de près, ce dont il s'agit, c'est de manipuler des styles, c'est jouer avec des styles et de leur ajouter à des contraintes. Bon, ça c'est un mot technique, mais c'est un mot qui n'est pas forcément technique, mais de dire, voilà, tiens, je vais essayer de faire comme machin, mais je vais rajouter quelque chose. Donc, McCartney adorait la musique classique, qu'il connaissait d'ailleurs pas très bien en tant que compositeur ou qu'arrangeur, mais il disait, je voudrais que Eleanor Rigby ait un quartet dans le style classique. Et c'est en prenant ce style classique, en lui rajoutant des harmonies pop, des rythmes pop, etc., qu'il a créé des choses nouvelles dont on bénéficie encore aujourd'hui. Et donc, c'est cette idée que je prends un style, je joue avec, je le tords, quoi. Je le tords et je rajoute des trucs dedans, des contraintes, et je vois ce que ça donne. Et ce qui m'intéresse in fine, en fait, c'est cette idée que je prends le style, je rajoute des contraintes. Je suis informaticien, la question c'est qu'est-ce que c'est le style en tant qu'objet informatique, enfin, disons, en tant qu'objet raisonnablement défini, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une contrainte, ça, bon, on a des idées. Et surtout, l'opération qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand je fais style plus contrainte pour créer des nouveaux objets. Ça crée en fait toute une palanquée de problèmes très intéressants, techniques, conceptuels, et qui évidemment questionnent nos amis qui s'intéressent au style, qui s'intéressent à la créativité, qui s'intéressent à la musique avec, disons, des outils... des SHS, comme on dit, et ça crée donc je crois, une situation très nouvelle. Voilà. Et donc l'existence même, au fond, de ces technologies crée quelque chose de nouveau et d'intéressant qu'on n'avait jamais vu. Alors sur le style, j'ai essayé de ne pas être trop long, mais moi, c'est un problème qui me, qui me tracasse depuis que je suis tout petit. Qu'est-ce que c'est? Comment les gens font pour composer des chansons qu'on aime, tout ça, tout c'est tout. Pourquoi on aime ce qu'on aime? Enfin, ce genre de questions. Et donc, j'ai profité du fait que j'avais ce projet ERC où on est quand même très très libre de faire ce qu'on veut. Ça, je vous le dis parce que c'est assez rare. Donc, j'avais pas prévu dans mon projet de faire ça, mais je vais dire, je vais aller voir tous les grands compositeurs que j'aime. Enfin, disons que j'aime. Je les aime pas, je les connais pas, mais dont j'aime certaines chansons, morceaux, je vais leur poser la question, pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait, qui avait fait que j'aime ce que vous faites, enfin bon. Donc je suis allé voir Ennio Morricone récemment, ça il faut couper. Donc je passe, mais disons, j'ai fait des interviews, plein d'interviews, en particulier de compositeurs, donc musique populaire, en France, Les Innocents, donc peut-être des gens comme ça, bon, qui ont composé des tubes, et j'essaie de comprendre comment ça marche. Et plus j'accumule de données, plus je m'aperçois qu'en effet, il n'y a strictement aucune recette, si vous voulez, il y a juste du travail. Et puis, il y a quelques éléments bon, intéressants, mais justement, pour les aborder, pour les modéliser, ben, au fond, il faut commencer par le début et dire qu'est-ce que c'est le style, déjà, avec des objets musicaux simples. Alors, cette histoire, alors, le style, je vais faire exprès de ne jamais dire ce que c'est de manière directe. Je vais le dire, je vais le dire de manière directe, puis je vais vous dire pourquoi. Le style, il y en a partout. Hein. Donc je parle de la musique, mais en musique, il y a le style d'une mélodie. Le McCartney fait des mélodies particulières, Beethoven aussi. Il y a le style d'une orchestration, il y a le style de l'accompagnement. Il y a du style partout et à chaque fois, ce sont des objets différents. Ça a commencé cette histoire avec un système qui s'appelait continuateur, donc qui était ça. Donc je suis désolé, je vais vous le remontrer pour ceux qui l'ont vu 2000 fois. Attention, ça va, c'est un peu fort. Peut-être je vais baisser. Je sais pas baisser ici. Ici là, pardon. Il y a voilà, pardon. Toc. Donc c'est un système où on improvise au piano là, et le système écoute et quand on arrête de jouer, ça apprend le style et ça fait une continuation. Vous allez voir, ça va continuer automatiquement dès qu'il s'arrête, en fait. Donc ça ne fait pas la même chose. Hein. Ça, en fait, ça abstrait, ça généralise un style et ça reproduit quelque chose qui ressemble, mais qui continue. Les informaticiens, ils connaissent bien cette histoire de continuation. Ça existe depuis longtemps, mais en général, on continue des chaînes de caractères. Sous Linux, hein, vous faites, ou même d'ailleurs sur les téléphones maintenant, vous faites bonge, ça fait bonjour, donc ça continue. Mais là, le problème, c'est comment on fait quand c'est de la musique, c'est plus compliqué. C'est des objets plus compliqués. Et donc là, l'idée, c'était, on a fait un système interactif qui apprenait comme ça, plus vous jouez, plus il apprend, et plus il apprend, plus il fait une continuation intéressante. Et ce système a eu beaucoup de succès dans la communauté en question. Parce qu'il était très efficace et non seulement il produisait des choses intéressantes, mais surtout il produisait des réactions psychologiques intéressantes de la part des utilisateurs. Là, c'était un musicien de jazz professionnel qui improvisait, donc l'improvisation libre. Bon, après, on a fait beaucoup de trucs avec les enfants. Ça, c'est un enfant de 6 ans qui n'a jamais joué de piano. Donc, il fait n'importe quoi. Et le système lui répond du n'importe quoi dans le même style. Et ce qui se passe de nouveau, c'est que c'est très addictif. Et après, donc j'ai pas toutes les vidéos, mais on a montré qu'au bout de quelques temps, au bout de quelques jours, c'est une expérience qui avait été faite sur plusieurs jours en Italie, en fait, ce truc non seulement était addictif, donc on pouvait jouer dans certains cas 40 minutes, donc un enfant, 40 minutes de piano, ça n'existe pas. Hein. Enfin, sauf s'il étudie le piano, mais je veux dire, si... un adulte non plus d'ailleurs. Hein. Essayez, vous allez voir, si vous n'êtes pas pianiste, qu'est-ce que vous faites pendant 40 minutes? Donc c'est nouveau, cette histoire de l'addiction. Et ensuite, ça les poussait à inventer des trucs. Donc, cet enfant, on a des vidéos extraordinaires où on le voit réinventer la notion d'arpège. Et il fait une espèce de truc qui ressemble beaucoup à du Bach. Il ne sait pas jouer du piano, il n'a rien appris. Mais je veux dire, le fait même d'être confronté à un système qui limite, disons, provoque des choses très intéressantes psychologiquement aussi. Donc, il y avait l'aspect technique de comment on fait pour faire ça et l'aspect ça a de l'impact. Et donc tout ça, ça, c'est pour ça que ça nous a amené à faire plein de projets. On a eu du succès, disons, en termes d'appel à projets, parce que vous avez des trucs rigolos et surtout très intrigants. Et donc il y a eu un premier projet qui s'appelait Mirror, et je voudrais en parler un tout petit peu, parce que ce projet s'était terminé il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, un projet européen sur 3 ans, dans lequel, grosso modo, on a dit, OK, comme c'est super ce système, on va l'étendre, on va faire marcher ça dans plein d'écoles en Europe, en Angleterre, en Grèce et en Italie, et en Suède. Bon. Et on va faire plein d'études de psychologie, de pédagogie, psychologie expérimentale, pour voir quels sont les effets, les mesurer, et voir quelle pédagogie, qu'est-ce qu'on peut pousser le truc, quoi. Et donc ce projet a donné lieu à beaucoup de résultats que je ne vais pas énumérer du tout, mais il y en a eu un qui est intéressant et qui, parce que justement, qui pose la question de, au fond, qu'est-ce qu'on fait là. Donc on a fait l'expérience suivante, très simple. On a pris des enfants, comme vous avez vu celui-là, du même genre, on les a mis par groupe de 4 et on leur a dit, vas-y, improvise, fais n'importe quoi, et on a enregistré ce qu'ils ont fait. Et ensuite, plus tard, quelques heures plus tard, on leur a fait un test d'écoute. On leur a fait écouter des trucs. Donc certains, c'était eux qui l'avaient fait, certains, c'était les autres enfants du groupe. D'accord ? Vous voyez, et on leur demande, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est pas toi ? Et on dit oui ou non. Et on compte, est-ce qu'ils ont raison ? Voilà. Et on trouve un taux de succès. Bon, autour de 70%. Ça veut dire, c'est le succès de la tâche d'auto-reconnaissance, self-recognition, d'accord ? En soi, ce taux ne veut pas dire grand-chose. Mais après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recommandé, on a fait exactement le même test, mais avec des phrases générées par le système, à partir de ce qu'eux, ils avaient fait, et aussi à partir de ce que les autres enfants avaient fait, et qui sont plus longues, donc qui ne sont manifestement pas des recopies, forcément, parce qu'elles sont plus longues. Et puis, il y a des contraintes, il y a plein de trucs dedans. Et on leur pose la question, est-ce que c'est non pas toi qui l'as joué ? Évidemment, ce n'est pas toi. Est-ce que c'est ton style ? Alors, c'est des enfants, donc on a trouvé une formulation très simple. Et le mec dit oui, non. Et on compte. Quel est le succès ? Et on trouve que le recognition rate est à peu près le même dans les deux tâches. C'est-à-dire la faculté de se reconnaître soi-même et la faculté de reconnaître son style via un système artificiel qui a essayé de modéliser le style, d'accord ? Alors, ce qui est intéressant, mais je sais que c'est assez inhabituel dans une présentation, mais je vais vous parler des reviewers du papier maintenant. Parce que ce papier, ça fait 2 ans et demi qu'il est en review dans un grand journal de psychologie musicale. Et après 2 ans et demi, le reviewer, manifestement, qui est obligé d'admettre que c'est nouveau et intéressant, mais ça ne lui plaît pas. Donc, ce qu'il a trouvé à dire et qui nous laisse un peu perplexes, c'est au fond, OK, il a dit après beaucoup de batailles, vous avez raison, votre système, nous ce qu'on disait, c'est que notre système, il est donc capable de modéliser le style, en tout cas avec la définition du style qui est la suivante, le style c'est n'importe quoi qui fait qu'on reconnaît l'auteur. D'accord ? Parce que les musiciens, les musicologues en tout cas, les sociologues de la musique, les machins, les trucs, eux, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que c'est le style dans le sens, c'est quoi les features, c'est quoi les caractéristiques, c'est les intervalles, ça va vite, je ne sais pas quoi, c'est ceci, c'est cela. Et nous, on a dit, nous, on ne veut pas se poser cette question-là. On pense d'ailleurs, je pense intimement que cette question n'a aucun sens. Mais on dit, s'il y a du style, il y a de la reconnaissance. S'il n'y a pas de la reconnaissance, c'est qu'il n'y a pas de style. C'est la même chose, en fait. Le style, c'est capacité d'être reconnu. Et donc on dit, notre système, il crée une capacité de reconnaissance qui est la même que sur les originaux. Et donc cette bataille-là d'arguments, elle est intéressante et elle est assez compliquée en fait. Parce que, alors le dernier truc qu'ils nous ont dit, c'est, mais ils ont dit, bon, ouais, okay, à force de se battre dessus, ils ont dit, ok, d'accord, mais vous n'avez rien prouvé parce que vous n'avez pas démontré que la reconnaissance des mélodies générées dans le style était dû au fait que les enfants avaient reconnu leur style, ce que nous on prétend, alors que tout simplement, c'est peut-être, tout simplement, disent-ils, un effet de mémoire. Pourquoi ? Parce que, comme nous, on utilise des systèmes des chaînes de Markov, des trucs statistiques dont je ne vais pas beaucoup parler, mais enfin, qui, en effet, recombinent des choses de manière, certes, très intelligente, mais quand même, on recombine des choses qu'on a vues, comme vous avez vu dans les vidéos. Ça ne fait que recombiner, étendre, mais Alors ils disent, bah, comme les features, quelles qu'elles soient, de ce que vous recombinez, les enfants ont été exposés à leurs features plus qu'à celles des autres, bah, et par définition, c'est eux qui l'ont fait. Donc, il y a un effet de mémoire. Donc, si ça se trouve, vous n'avez rien montré d'autre que l'enfant se rappelle de ce qu'il a fait. Vous voyez l'argument ? Et cet argument, nous, ça nous met dans des colères noires. Bon, c'est toujours l'histoire du troisième reviewer qui n'est pas d'accord. Mais si on dépasse la colère, au fond, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir si le style, c'est autre chose que de la mémoire, ou en tout cas, on ne peut pas savoir dans quelle mesure c'est de la mémoire dite épisodique, parce que c'est des choses qui ont été faites récemment. Évidemment, si on demande à l'enfant de venir 2 ans après, je pense qu'il ne s'en souviendra de rien. Et alors, quelqu'un m'oppose l'argument suivant. « Oh, mais les enfants, ça ne veut rien dire, ils font n'importe quoi. Prends autre chose, prends un spécialiste de Mozart. » Un vrai musicologue qui a 60 ans, qui a écouté tout Mozart toute sa vie, qui connaît par cœur et qui connaît parfaitement Mozart et, je ne sais pas, Haydn. Voilà. Tu lui fais écouter du Haydn, du Mozart, il a un taux de reconnaissance de 100%, qui dit. Et moi, je dis, ben oui, mais le mec, il connaît tout par cœur. Donc, comment tu peux montrer qu'au fond, ce qu'il a fait, ce n'est pas que de la mémoire ? Bon. Donc, cette question, elle est insoluble. Donc, tout ça pour dire que qu'est-ce que c'est le style ? Ben, je ne sais pas. Je dis le style, c'est la faculté de reconnaître, c'est quelque chose qui fait qu'on reconnaît. Et pour l'instant, on n'a pas en tout cas trouvé de protocole expérimental pour dire que ça serait autre chose que de la mémoire. Et puis d'ailleurs, si c'était autre chose, ça serait quoi ? Ça serait une représentation mentale du style. Moi, à partir de moi, je vois le mot représentation mentale, j'arrête de lire, puisque de toute façon, je ne sais pas ce que c'est. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je suis informaticien, donc j'arrête. Et donc ce débat qui, je pense, n'est pas un débat simplement anecdotique d'un reviewer et d'un type qui essaie de publier un papier. C'est un débat de fond, parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui commencent, et vous en avez entendu parler, je pense, en machine learning. On a beaucoup parlé récemment du deep learning, etc. On dit que le deep learning est capable de savoir ce que c'est qu'un chat, donc de construire, au fond, des trucs qui ressemblent à des représentations mentales. Donc ce débat, il devient absolument crucial. C'est qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ces algorithmes, ils font en effet autre chose que simplement appliquer des formules. Est-ce qu'ils ne sont pas en effet en train de fabriquer des représentations assez profondes ? Donc ça, c'est un vrai problème. Après, je ne vais pas vous parler de technique, ça c'est la seule slide. Bon, ce qu'on a fait, ce qui nous intéresse en tant qu'informaticien, mais donc je vais aller vite, c'est les technologies pour fabriquer, en fait, pour, comme on disait il y a quelques années au Lipsis, pour réifier, c'est-à-dire pour dire le style, c'est quoi, comme, pour en faire un objet informatique. C'était une expression que met beaucoup Jacques Ferber à l'époque. Quel est l'objet ? Est-ce qu'il y en a un ? Alors, comment on le réifie ? Le problème, c'est que pour le réifier, il faut faire de l'analyse statistique assez complexe pour arriver à reproduire, disons, des caractéristiques des corpus dans les nouvelles générations. Alors, je ne vais pas vous dire comment on fait techniquement, mais je vais vous montrer quelques exemples. Donc, ça, c'est un système virtuoso que je fais il y a quelques années. Donc, moi, je fais du jazz, je suis musicien, je suis guitariste, un petit peu pianiste, mais... Et comme tous les musiciens de jazz, on est tous obsédés, et je pense que c'est une obsession très, très générale, par vouloir jouer dans son style, mais mieux, plus vite. Mieux, ça veut dire plus vite, une phrase plus intéressante, avec moins d'erreurs, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est ça le jeu en jazz. On a une grille d'accords, il faut improviser à fond la caisse, il ne faut pas faire d'erreurs, il faut faire plein de trucs rigolos. Bon. Et c'est vachement dur, il faut y passer sa vie, enfin, c'est comme un sport. Hein. Et donc, j'ai fait un système qui apprend. Donc, j'ai joué. Donc, je lui ai enseigné mes phrases préférées sur un clavier. Et puis, j'ai fait un système qui s'appelle Virtuoso, qui fait des trucs virtuoses. Donc, ça, je joue avec Marc D'Inverno, là, de Goldsmith. Un morceau qui s'appelle Cantaloupe Island. Bon, on n'entend pas très bien, c'est le son de flûte. Mais le son de flûte, c'est moi qui le déclenche avec une oui ici, en faisant Start-Stop. Ça s'adapte automatiquement à l'harmonie, j'ai pas besoin d'y penser, alors que normalement, quand on joue, c'est ça la difficulté. Et je déclenche, et j'ai la vitesse comme sur une mobilette. Plus vite, moins vite. Enfin, plus vite, c'est-à-dire plus de notes par seconde, je ne change pas le tempo. Et pour un musicien, c'est incroyablement jouissif de faire ça, c'est extraordinaire. C'est comme si j'avais travaillé 30 ans mes gammes, et que j'arrivais enfin à faire ce que mon cerveau a envie de faire. Bon, plus ou moins, parce que j'ai pas un contrôle très fin ici, mais je peux dire monte, descend, à toi, va plus vite, des trucs comme ça, d'accord ? Donc ça, bon, quand on ne connaît rien à l'harmonie, au jazz, on se demande ce qui se passe, on ne voit pas l'intérêt. Mais quand on y connaît quelque chose, c'est absolument fascinant. Et je pense qu'il va y en avoir beaucoup, disons, des systèmes comme ça dans le futur. Pas forcément celui-là, mais il y en aura beaucoup qui vont démultiplier les capacités de chacun et leur permettre de faire des choses fantasmées jusqu'à présent et qui leur aura demandé trop de travail, enfin, tout simplement. Être virtuose de jazz, c'est vraiment très dur. Enfin, c'est plus dur qu'à être informaticien, qui est déjà très dur. Mais... Autre exemple, Ray d'Inverno, qui est un grand pianiste de jazz, lui, c'est autre chose qu'on voulait modéliser, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, on dit comping en anglais, c'est un truc très particulier. Il y a quelqu'un qui joue un morceau et il faut faire des accords, des machins pour accompagner. Et c'est en fait un truc à la fois très contraint et aussi très libre. On peut faire ça parce qu'en jazz, on peut faire plein de choses. Quoi. On peut rajouter. Alors ça, par exemple, le voilà qui joue... Bon, pas des trucs très très compliqués, mais voyez, Ed Jones, là, il joue je sais pas quel morceau, et voilà ce qu'il fait, lui. Moi, ce que je voulais, c'est modéliser ça. Mais précisément, le type de note qu'il fait, le timing, les erreurs, les types d'accords, tout ça, d'accord? Ça, je monte juste quelques secondes parce que c'est rigolo. Rigolo, peut-être qu'il faudrait baisser le rideau, mais attendez. Ça, c'est Gilad Atzmon, qui a été considéré par The Guardian récemment comme le meilleur musicien du monde. Il joue sur le dernier disque des Pink Floyd. Bon, ouais, je suis très fier parce que j'ai joué avec lui, c'est juste pour... Donc l'idée, c'est comment ce type il joue, mais aussi comment il s'adapte à différents solistes. Donc c'est quoi le modèle? Donc vous voyez, là, le modèle du style qu'il va y avoir, il va être très différent. Soit un modèle d'abord polyphonique, et puis aussi qu'il soit capable de s'adapter à différents types de... Bon, alors là, on a fait plein de choses. Là, je vous montre juste un exemple. Là, maintenant, ce qu'on a, c'est un système où on prend ce qu'on appelle un lead sheet, c'est-à-dire une mélodie, justement, avec les noms d'accords. Giant Steps, qui est un thème de Coltrane, qui n'a pas été joué par Ray d'Inverno. On dit, voilà, Ray d'Inverno, il a joué ça sur Girl from Ipanema, qui est un autre thème que vous connaissez peut-être. Donc ça, c'est l'accompagnement de Girl from Ipanema original, joué par Ray d'Inverno. Et on dit, voilà, maintenant, je veux générer un truc pour Giant Steps. Je crois que c'est ça. Donc là, vous avez la mélodie qui est synthétisée hein, par un synthétiseur. Et puis derrière, vous avez l'accompagnement. Donc vous n'entendez pas très bien. Mais ce que vous entendez, c'est qu'il y a des notes, ça parle un peu dans tous les sens, ça ressemble à du jazz et c'est exactement son style. Et quand je lui fais écouter, il me dit oui, c'est moi, etc. Donc on a après toute la même question que tout à l'heure. Bon, etc. Donc on a la même question de tout à l'heure de la validation scientifique. Hein. Comment on prouve que... Alors ça, c'est on trompe dans les mêmes problèmes que tout à l'heure, mais ce problème, il est vieux, il est sans fin. Mais donc ça, c'est... L'accompagnement. Mais l'accompagnement, alors, je voudrais dire juste pourquoi, au-delà de la technique, ce qu'on peut faire du coup maintenant avec ça, c'est qu'on peut dire, voilà, j'ai un morceau. Ça, c'est Giant Steps. Donc, vous entendez le piano derrière. Et on reconnaît assez bien le style. En tout cas, bon, il faudrait passer plus de temps, mais vous pouvez être d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo, je peux la faire durer plusieurs siècles. Et à chaque fois, ça sera différent. Donc vous voyez, on transforme un truc qui est fini petit, c'est-à-dire un enregistrement original qui va durer, je ne sais pas, 5 minutes, 10 minutes. Avec Ray d'Inverno, on pense à une expérience intéressante, on voudrait le saturer. C'est-à-dire, combien de temps il faut que je l'enregistre pour qu'il ait dit tout ce qu'il sait faire. Alors quand vous dites... Ça, c'est une question très intéressante. Alors, quand vous parlez à un musicien, ou même un écrivain, ou un créateur en général, vous dites... C'est quoi la quantité? Vous connaissez le truc de Borges qui dit la librairie où il y a tous les livres du monde, etc. Mais bon, ça n'a pas de sens parce que la plupart de ces livres ne sont pas intéressants. Mais vous prenez un créateur, il dit combien de temps il faut pour dire tout ce que tu as à dire? Il va dire, mais plus qu'une vie. Mais en fait, c'est pas vrai. On a fait une expérience assez intéressante où vous dites aux gens d'improviser. Et si on mesure des choses assez simples sur le degré d'innovation, de nouveauté, comment ça bouge avec le temps. Au début, tout est nouveau, puis très très vite, les gens se répètent. Ils disent le même genre de truc, quoi. Donc si vous avez un système qui est capable de modéliser le style, ça veut dire que le genre de truc, ça, c'est pas la peine, on sait faire. Donc c'est le début qui nous intéresse, ça dure combien le début? Combien de temps il faut pour qu'un super guitariste de jazz, un super pianiste, un super compositeur, disent des choses pour que le système ait tout... Ait tout... Ça, c'est des questions nouvelles, hein. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas parce qu'il n'y avait pas les technologies, parce que d'abord, le sujet est tabou, parce que la création avec un grand K, en effet, il ne faut pas y toucher. Mais aujourd'hui, les questions se posent, les techniques sont là, il n'y a qu'à. Voilà. Donc là, en ce moment, par exemple, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, on va au Brésil, je vais au Brésil enregistrer des guitaristes de musique brésilienne et j'essaie de les saturer. C'est très intéressant ce qui se passe. Alors, on ne fait pas que du pop, on s'amuse aussi avec ce qu'on appelle la musique polyphonique, c'est-à-dire ça. Donc ça, c'est le même morceau, Giant Steps de Coltrane, dans le style de Wagner. Bon, alors après, s'il y a des spécialistes de Wagner, ils vont me dire d'abord, c'est pas orthographié comme il faut, il y a un si bémol, ça sera un la dièse. Bon, ça, je reconnais, mais c'est un détail. Mais on peut quand même se mettre d'accord qu'on reconnaît des trucs, genre des chromatismes, les fameux chromatismes wagnériens, etc. Bon, ça a été fait par un système agnostique, c'est-à-dire la seule chose que j'ai dit dans le système, c'est des extraits de la tétralogie en MIDI, c'est-à-dire des fichiers assez bruités, je veux dire, dans lesquels il y a des erreurs, et sans aucune annotation. Donc c'est vraiment fait avec quasiment rien, et surtout aucune connaissance du système. Donc vous voyez qu'on arrive à faire, et c'est ça qui m'intéresse, c'est à transformer le corpus en une sorte de dentifrice, voilà, que je peux étaler et auquel je peux faire coller n'importe quelle contrainte. Mais c'est ça que j'avais dit au début, hein, j'avais dit que la créativité, c'était la texture d'un style existant avec des nouvelles contraintes. Donc c'est exactement ça qu'on fait. Alors après, techniquement, c'est difficile à faire. Mais bon, ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Je veux juste dire qu'on commence à y arriver, on commence à faire des choses intéressantes. Juste parce que des petites touches un peu, disons, pas très sérieuses, mais amusantes, j'aime bien aller me confronter, disons, à la réalité de ce dont je parle. Ce dont je parle, c'est la musique populaire, la composition, l'arrangement, etc. Donc récemment, je suis allé à Rio, il y a 2 ans, on va dire, dans le cadre d'un projet qu'on a avec le Brésil, voir Ivan Lins. Alors, Ivan Lins, vous ne connaissez probablement pas, mais c'est une star absolue au Brésil. C'est un type qui a composé des chansons, des morceaux qui ont été extrêmement joués. On dit que dans Love Dance, c'est un des titres les plus réenregistrés de l'histoire de la musique. Je parle de musique populaire, attention, de la bossa nova, des trucs comme ça. Et il a en particulier enregistré un titre qui s'appelle The Island. The Island en anglais, c'est en fait la traduction en portugais qui est Começar de Novo, qui n'a rien à voir, qui veut dire recommencer à nouveau. Et c'est une chanson comme ça, c'est une chanson très lente avec beaucoup d'harmonie. De jazz, sophistiqué, des modulations, des choses que... C'est de la musique pour les gens qui aiment bien l'harmonie, disons. C'est un grand tube, c'est ce qu'on appelle un standard, c'est dans les real books de standards de jazz, etc. Ok, et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chez lui, puis je l'ai interviewé à Rio aussi, et je lui ai fait écouter une réharmonisation de ce morceau dans le style de Tex-Six. Bon, Tex-Six, c'est un groupe américain très connu de jazz, dont il se trouve que j'ai des partitions. Donc j'ai pu prendre les partitions, les donner à mon système, qui a essayé d'analyser le style, et de faire une réharmonisation de ça. La réharmonisation, elle n'est pas très jolie, parce que, comme je disais au début avec Maricon, c'est-à-dire que ce que vous allez entendre là, ce n'est pas du son. Hein. Ce que vous entendez, au fond, c'est la partition qu'on a renderisée, qu'on a mis du son. Mais le son n'est pas beau, il n'est pas expressif. Le timing est complètement cadré, donc ce n'est pas une réalisation finale. Hein. Mais c'est un objet pour des gens qui lisent des partitions. Okay, c'est un truc comme ça. Très sec, hein, d'accord ? Mais... ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'harmonie de Tex-Six qui sont absolument extraordinaires, etc. Donc je lui ai fait écouter ça en ayant peur parce que juste avant, il m'avait dit que Tex-Six c'était ses amis, etc. Moi, j'étais très impressionné, mais je l'ai fait quand même. Et on voit qu'il a exactement le même genre de réaction, en plus amplifié que le type du début, là. Bon, ça dure longtemps. Et il est très expressif, on peut voir qu'il écoute les détails de l'harmonie des accords, d'accord ? c'était gonflé de ma part de faire ça, mais c'était pour moi une validation très importante qui n'a aucune valeur scientifique. Mais pour dire, oui, ce type, il a bien entendu dans le système ce que moi j'ai voulu que le système produise. Mais c'est pas quantifiable, évidemment. Donc on est capable de faire de l'harmonisation, de l'orchestration. Donc quand je dis dans le style, encore une fois, c'est les systèmes automatiques. La seule chose qu'on leur donne, c'est des exemples d'harmonisation, et d'ailleurs assez peu. On fait aussi ce qu'on appelle des lead sheets, mais je vais sauter parce que je crois que j'ai pas beaucoup de temps et puis sinon ce sera trop long. C'est-à-dire des morceaux dans le style 2, etc. Je voudrais juste combien j'ai de temps encore ? Parce que je vais sauter de.
Je sais pas, je vous écoute avec passion. Il est 2h05.
C'était pas ma question. j'ai moins 20 minutes. Voilà. Alors, je cherche en fait des choses à dire qui pourraient provoquer des réactions ou des batailles sanglantes, mais je crois que je ne vais pas y arriver, mais bref. Ouais. Récemment, donc, la Commission européenne m'a demandé de faire une réorchestration de l'hymne européen. Donc, l'hymne européen, c'est l'ode à la joie de Beethoven. Moi, je ne le savais pas. Une réorchestration avec mes machines, parce qu'évidemment, je suis subventionné par l'ERC, je ne pouvais pas dire non. Donc, j'étais embêté. Donc, j'ai dit oui, et j'avais 2 mois, 1 mois et demi ou 1 mois pour faire 7 réorchestrations, mais avec les machines. Donc, c'était un truc très intéressant, parce qu'il fallait que ça se joue pendant une cérémonie qui a eu lieu au mois de juin, pour le 5000e bourse ERC. Et donc, c'était dans un endroit au Parlement où il y a beaucoup de monde qui boit, donc il y a du bruit, ils boivent du vin. Je veux dire, ce n'est pas une écoute attentive. On n'est pas dans un séminaire de musicologie. Il y a du bruit, c'est grand. Donc, il faut que ça soit très bien mixé, produit, parce que sinon, on n'entend rien. Et il faut que les gens reconnaissent la mélodie de la joie. Et il faut qu'ils reconnaissent le style. Donc c'est une contrainte, en fait, ça a l'air pour un musicien, un bon orchestrateur, c'est pas une tâche très compliquée. Mais pour une machine, c'est drôlement difficile parce qu'il n'y a pas que des contraintes techniques. Hein, il fallait aussi que ça soit produit, il fallait que ça soit équilibré, etc. Donc on a fait ça, il y a une vidéo sur le web qui montre tous les exemples. Je vais juste en montrer quelques-uns, puis ça a l'occasion de donner un peu des éléments pour un débat. Donc le premier truc dont on est parti, c'est ce qu'on appelle, nous en anglais, le lead sheet, c'est-à-dire la partition de référence qui est donnée. Alors, typiquement en jazz ou en pop, c'est le machin dans lequel il y a le minimum d'informations pour jouer la mélodie. On l'ode à la joie, le lead sheet, si vous voulez, en fa, ce serait la, la, si, do, si, des noirs, et là, les f, do, c'est des noms d'accords. D'accord ? Donc c'est une partition très, très, très réduite, très quantisée, il n'y a pas d'expressivité, il n'y a pas de son. Les accords sont réduits à leur plus simple expression. Bon, ça peut être plus compliqué que des choses comme ça, mais vous voyez le genre de truc. Et il y a la structure qui vous dit A, A, B, A, des trucs comme ça. Alors, au passage, nous, dans le projet, ça n'existait pas, une base de données. Ça, on a construit la première et plus grosse base. On en a 12 000 aujourd'hui. On a tout le jazz, toute la musique brésilienne et une grosse partie du pop et de la musique de film. Ce qui pose des problèmes de droit absolument insolubles, mais intéressants. Donc, on part de ça et on dit, voilà, je donne ça au système et je lui donne un style. Donc, ça, c'est une contrainte, si vous voulez. Et le premier style, évidemment, qu'on était quasi obligé de faire, c'était les chorales de Bach. Parce que ça c'est un peu un thème obligé quand on fait de l'écriture au conservatoire. On apprend à faire ça. Et ça peut être assez difficile, enfin c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, mais donc chorale de Bach, c'est des trucs qui sont à 4 voix, vous voyez, il y a 4 voix. Et puis, ça s'apprend, hein, à l'école, enfin au conservatoire, il y a tout un tas de règles, de patterns, de machins qu'il faut faire et qu'il faut pas faire pour que ça sonne harmoniquement bien et puis pour que ça ressemble à du Bach. Hein. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, donc ça c'est un étudiant qui a fait ça, Gaëtan Adjeres, donc on a pris comme base les 400 partitions des chorales de Bach, puisqu'il en a écrit à peu près 400. Bon, enfin, plus ou moins, après il y a des détails, il y a des choses qu'on enlève. Bon, on a regardé les trucs qui étaient à 4 voix. Et la seule chose qu'on a, c'est ça. On n'a pas les paroles, évidemment, et on a juste la succession des notes et des 4 voix. Et alors là, on a fait un système, c'est très intéressant techniquement. où ce que fait le système, c'est plus fort, c'est beaucoup plus fort que ce que faisait le continuateur au départ. Grosso modo, il essaye d'apprendre la statistique des corrélations, mais non pas comme dans les chaînes de Markov, les corrélations du suivant, mais des corrélations binaires, mais éventuellement assez loin. Donc, qu'est-ce qui se passe d'une note à l'autre, d'une note à celle d'après, d'une note à 3, 4, 5, 10, jusqu'à assez pas mal loin après, en horizontal, en vertical, et pour chaque ligne. D'accord ? Donc, bon, on regarde ça, on dit, oui, bah, qu'est-ce qu'il va faire ? Enfin, c'est-à-dire, bon, ça fait ça. Ça, ces modèles, ils sont très simples et extrêmement puissants. C'est des modèles très puissants. Je ne peux pas dire pourquoi, je n'ai pas beaucoup de temps, mais parce qu'au fond, quand on arrive à modéliser ce genre de phénomène comme ça, ça, c'est des formulations énergétiques. En fait, ce que ça dit, c'est que la probabilité d'une partition, elle est liée à son énergie, H. Et là, il y a des paramètres que je ne montre pas. Mais quand on arrive à estimer ce genre de modèle, on a un modèle caché. En fait, on arrive à apprendre des choses. Enfin, quand je dis « on », le système arrive à apprendre des choses vraiment cachées, vraiment fondamentales, qui expliquent beaucoup de choses là-dedans qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas ni comme observateur de ça, ni comme musicologue. On fait ça. Bon, je passe les détails. C'est compliqué, mais ça marche. Alors, voilà ce que ça donne. Random, hein. Après, il y a des itérations. On monte quelques itérations du système. Voilà, et très vite, ça donne ça. Vous avez vu en tant que tabadabada. Il n'y a pas d'expression, le son n'est pas beau, hein, mais on n'écoute que la partition. Une petite dissonance intéressante. C'est quasi parfait si vous faites ça. Bon, il y a un problème de rythme, parce que le rythme est homophonique, donc il n'y a pas de rythme, etc., mais compliqué. C'est parfait, et qu'est-ce qu'on a dit au système ? Rien, on a juste donné des chorales. Vraiment rien, hein. Rien plus le modèle de Boltzmann que vous avez vu en haut. Rien d'autre. Après, il y a de la technologie pour que ça marche. Là, il y a trois couleurs, blanc, vert, rouge. Les blancs, c'est les accords qui étaient déjà dans le corpus qu'on lui avait donné, donc il les a réutilisés. Les verts, il les a inventés, mais ils étaient dans un autre corpus de Bach, donc il les a retrouvés, et les rouges, ils n'existent nulle part ailleurs. Donc ça veut dire que ces genres de systèmes, ils ont aussi une capacité indéniable de création dans le style. C'est-à-dire, il n'y a pas d'accord délirant, il ne fait pas des choses, il ne fait pas du Gesualdo, etc., mais il fait des choses dans le style. Donc c'est des systèmes qui ont une grande capacité d'imitation, mais aussi de création, et qui sont très 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 puissants. Voilà. Donc ça, voilà, on a fait ça, une fois qu'on l'a fait, bah, on l'a joué. Ça, c'est ce qu'on a joué au Parlement. Et vous voyez que la différence entre les deux, c'est qu'il y a le son pas pareil. Bon, c'est un son d'orgue qui était mieux, ça, bon, d'accord. Mais surtout, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais la mélodie, elle est jouée par un être humain, avec un hautbois. On entend un peu de temps en temps les clés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est dit, on a essayé, mais quand on a essayé de jouer ça le mieux possible, et en fait, ça ne passait pas. Il manquait un petit truc humain qui faisait que ça sonnait trop mécanique. Donc, on a été obligé de tricher, de jouer la mélodie de l'Ode à la joie de manière humaine. Et ça, ce petit delta, là, qui n'est pas fait par une machine, oui, ça résiste. On ne sait pas le faire aujourd'hui. On ne sait pas jouer l'Ode à la joie de manière expressive. Mais je pense qu'on saura un jour. Mais en tout cas, ça, c'est un problème qui reste et qu'on ne sait pas encore bien traiter. Le reste est entièrement automatique. Je vais juste donner un deuxième exemple, après j'arrête. Parce que ça me plaît beaucoup, la bossa nova. J'en ai fait beaucoup moi-même pendant longtemps. C'est dur à apprendre, etc. Et j'aime bien le Brésil. Donc, au Brésil, on a un projet qui s'appelle Brasile, Brasil Style, bon, où on va enregistrer des gens et on essaie de capturer le style, alors de l'accompagnement. L'accompagnement de la guitare brésilienne, c'est compliqué parce que, d'abord, harmoniquement, c'est très riche, l'harmonie brésilienne. Il y a plein d'accords tordus, etc., ça qui fait son intérêt. Et puis, rythmiquement, il y a plein de trucs compliqués. C'est jamais joué carré, il y a des trucs avant, des trucs après, il y a des bruits. Il y a les gens qui, quand ils jouent, ils font des erreurs. Il y a ce qu'on appelle le groove. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui font qu'un enregistrement comme ça, c'est dur à manipuler de manière automatique. On ne sait pas comment le couper, on ne sait pas grand-chose. Donc, on a fait un système que je ne vais pas décrire et que je vais sauter directement, qui est capable justement de détecter, disons, les irrégularités. Ça, c'est la partition. Si vous apprenez la bossa nova à l'école, bon, maintenant on peut le faire, on vous apprend que ça fait tin, tin, clon, tin, tin, clon, tin, tin, tin. Donc il y a des syncopes, des anticipations. Vous voyez, qui sont marquées là. Le problème, c'est que les anticipations, elles rendent la tâche très compliquée pour les gens qui font de l'audio, parce que grosso modo, les trucs ne tombent pas sur les bits. Ils tombent un peu avant. Mais on ne sait jamais avant si c'est une anticipation, si c'est une erreur, ou si c'est la fin de la note d'avant, quand on a un système automatique, le problème est difficile. Donc on a trouvé, disons, une solution générique qui marche assez bien. Et ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de faire un truc assez rigolo, qui est que... attendez, où sont mes exemples? Je vais prendre ça comme exemple, pardon. Ça, c'est Insensatez, une grande bossa nova de Jom Jobim, joué par un vrai guitariste. Hein, donc la mélodie, c'est du synthé. Hein. Ce qu'il faut écouter, c'est la guitare derrière. Vous voyez, les rythmes, les harmonies. Et après, on prend ça, on prend une lead sheet quelconque. Donc là, on a pris quoi? On a pris Michel, des Beatles. Vous reconnaissez Michel et l'accompagnement derrière. L'accompagnement derrière, il est généré strictement à partir de ça. Il n'y a pas de connaissance musicale, il n'y a rien. Il y a très peu. Il y a là des exemples, on en a plein. Friends to Go, voilà. Ça, c'est de la guitare, ce qu'on appelle du strumming en anglais. Et là, All of Me. Donc, on est capable de générer des trucs, seamless en anglais, sans couture. Et donc ça, bah oui, ça laisse entrevoir l'idée qu'au fond, un accompagnement, on sait le transformer en un style, puisqu'on sait ensuite l'appliquer à n'importe quoi. Bon, je mets des guillemets parce que c'est... Et donc ça veut dire quoi? Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ce qui a de la valeur, c'est plus la musique. La musique n'a plus de valeur commerciale. Je ne dis pas qu'elle n'a plus de valeur. Je retire ce que j'ai dit. Valeur commerciale. Aujourd'hui, la musique, ça ne coûte rien. C'est gratuit. C'est très, très peu cher quand on paye. Et la plupart du temps, c'est gratuit. Vous voulez écouter un truc, vous allez sur YouTube, c'est gratuit. L'industrie du disque a quasiment disparu. Donc, par contre, le style, oui, ça a une valeur inestimable. Puisqu'aujourd'hui, quand on demande une composition à un compositeur, que ce soit pour faire de la publicité, un film ou une œuvre savante, d'ailleurs, ce qu'on veut bien, c'est le style du type qu'on veut instancier. Donc le style, lui, il a de la valeur. Donc moi, ce que j'essaie de dire, je parle aux informaticiens, c'est que la réification du style, ce n'est pas un exercice intellectuel uniquement. C'est une industrie des contenus qui est en train de se créer. Sachant que les contenus, les réalisations complètes ont de moins en moins de valeur commerciale, on réifie le truc du dessus qui, lui, je pense, en a. Et on peut imaginer une industrie, c'est quasiment fait, enfin, je veux dire, c'est en train de se faire, une industrie du style qui, d'ailleurs, bénéficierait en premier lieu, d'ailleurs, aux musiciens qui, aujourd'hui, ne vivent plus. Les musiciens de musique populaire ont beaucoup de mal à survivre dans la nouvelle... Et je vais terminer juste avec un... Donc là, l'ode à la joie... Bon, dans la vidéo sur le web, vous en avez 7. Il y en a en lounge, il y a Penny Lane des Beatles, et il y a un truc de Morricone aussi. Qu'on a. Bon, mais ça, je n'ai pas le temps d'en parler. Je vais juste conclure en disant que tout ça, on peut l'appliquer pour faire de la composition ou de l'arrangement, des choses comme ça, offline, comme on dit. On peut aussi faire, et ce qu'on fait, c'est des applications aussi temps réel. Et là, c'est un autre fantasme qui est en jeu, justement, qui rejoint le problème de l'improvisation collective. Bon, moi, je fais beaucoup de jazz. Donc, le jazz, c'est collectif. Je dirais presque, hélas. Pourquoi ? Pas parce que je suis autiste et je n'aime pas les gens, mais parce que, de temps en temps, ou souvent, disons, on aimerait contrôler ce que fait le bassiste, ce que font les autres, quoi, quand on joue. Sauf si on fait n'importe quoi. Bon, le free jazz, c'est une autre histoire. Mais le jazz, qui est un truc très contraint, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très rare de voir des gens jouer sur des instruments solo. Alors, piano, il y en a un peu, mais vous voyez, déjà, c'est très dur de jouer tout seul. Mais au piano, on peut jouer un peu la basse, un peu l'harmonie, un peu et la mélodie. Quand on est virtuose, on y arrive. À la guitare, c'est quasiment impossible, puisqu'on n'a qu'une main à la guitare. On peut jouer qu'une note avec une seule main, je veux dire l'autre... Et donc, il y a des duos de guitaristes, il y a des trios, ça existe, mais tout seul, c'est pas possible. C'est très difficile. Joe Pass faisait ça, mais c'est très difficile. Donc moi, j'avais ce fantasme depuis longtemps. En tant que guitariste, j'aimerais bien jouer tout seul, mais je ne peux pas, parce que je sais jouer de la basse, je sais jouer des accords, je sais l'harmonie, je sais plein de trucs, je fais un solo, je fais tout ça, mais je ne peux pas faire les trois en même temps. Et donc, il y a ce qu'on appelle des loop pédales, qui sont des boîtiers, que vous connaissez, où j'appuie record, je fais la basse pendant une minute, stop, je fais les accords, une minute, et au bout de deux minutes, je peux commencer à jouer. Mais là, les gens sont partis. Et puis en plus, ce n'est pas intéressant, parce que c'est juste jouer sur des enregistrements. Donc moi, je me disais, comment faire un système dans lequel je joue ce que je veux, quand je veux, de la basse, des accords, du solo, et le système, il sait ce que je fais, il reconnaît, il apprend, et il continue automatiquement quand je fais l'un des trois autres, hein, parce que là, on parle de basse, harmonie, solo. Donc j'ai fait ce truc-là. Donc là, je joue un blues, je crois. Bah, je suis obligé de donner quelques explications. Donc là, c'est un blues, ça, c'est le lead sheet du blues. Il n'y a pas de mélodie, c'est que des accords. Si bémol, mi bémol, si bémol, etc. Puis là, ça change un peu. Ça passe en sol, en do mineur, et ça revient en si bémol. D'accord ? Donc ça, je le donne au système. Je le donne la liste des noms des accords. C'est tout ce que je donne. Et là, je vais jouer un peu des accords. Tic, 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 tic. Après, je vais faire un peu de basse. Ton, 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 ton. Là. Et quand j'arrive là, le système, là, je vais faire un solo. Mais le système, il va continuer la basse et les accords tout seul. Alors, ça va tellement vite qu'on ne s'en rend pas tellement compte. Mais tout ça, c'est entre le moment où je joue et le moment, disons, dans le temps d'une demi-mesure, le système, il a enregistré, généralisé et généré la suite. Vous voyez ? Donc là, je peux faire un blues et ça commence à être intéressant, grosso modo, dès la deuxième ligne, c'est-à-dire la cinquième mesure, et non pas au bout de deux minutes. Je ne suis pas très fier du résultat, mais c'est juste pour montrer. C'est... Donc, des accords, un peu de basse, des accords, et là, vous avez les trois. Avec des accords nouveaux, qui n'ont jamais été joués, d'accord ? Donc ça, ce qu'on appelle le reflexive looper, c'est des systèmes intéressants parce que je joue avec moi-même deux fois, mais dans un cadre ultra contraint, qui est le contrainte déterminée d'ailleurs par le lead sheet en partie, mais que je peux modifier dynamiquement. Et récemment, on travaille avec cet artiste que j'aime beaucoup, Benoît Carré. Donc c'est lui, c'est un compositeur de chanteur qui a fait Voyage en Italie, Lily Cube, je ne sais pas si vous avez... Donc là, il joue I Feel Fine des Beatles avec ce système. Donc on a fait une vidéo qui est mieux maintenant, mais qui est plus claire. Mais là, ce qui se passe, ça c'est la caméra, ça c'est la réalité, ce qui se passe en vrai, en temps réel. Rien n'est enregistré avant. Et ça, tout ça, c'est synthétisé, fait par le système en temps réel. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va jouer un tout petit peu de guitare, d'arpège, très vite. Le système va reconnaître que c'est des arpèges. Qui s'appelle corde d'ailleurs, c'est idiot, mais et il va continuer à I Feel Fine avec ses appels. Après, il va faire un peu de drum, un peu de basse, et il va chanter. Et il fait tout en temps réel. Sans. Voilà, il joue ça, il s'arrête, ça continue tout seul. Il fait un peu de drum avec son truc qui est là. Voilà, il se met à chanter. Et là, il va faire de la basse. Enfin, il fait ça dans cet ordre-là, il aurait pu le faire dans n'importe quel autre... Et là, ça y est, la basse, c'est parti. Là, il ne fait plus rien. Enfin, il chante. Alors, ça a l'air de rien, parce que la chanson, on la connaît, on a vu ces vidéos 200 fois où les types se font du multipiste, sauf que là, c'est fait en temps réel. Donc, ça veut dire qu'on peut changer tout le temps. Là, d'autres types d'accords. Hop, etc. Et puis après, et j'arrêterai là, vraiment. Et ben une fois que le truc est parti, là il change la drum un peu. Bon, j'attends juste le pont et puis j'arrête. Là il fait juste la deuxième voix. Voilà, et là il y a le pont. Il fait rien. Mais comme il ne fait rien, il peut jouer avec le truc, rajouter des effets, les tordre, enfin faire tout ce qu'on aime faire dans les ponts, s'amuser, explorer. Et là, il y a il y a une infinité de choses qu'on peut imaginer faire pour tordre les choses dans tous les sens. Et revenir sur ses pieds quand on a fini. Bon, j'arrête. Conclusion, le thème c'était... J'ai oublié ce que c'était. C'était improvisation collective et espace sonore. Je n'ai pas parlé d'espace, mais ma contribution toute petite, c'est de dire le style, les technologies du style, je pense, révolutionnent complètement la musique. J'ai montré des choses qui sont très personnelles, qu'on fait nous dans notre labo, mais c'est parce que j'ai que ça sous la main. Mais le message, je pense, est plus général. C'est-à-dire que là, vraiment, la technologie, on dit toujours la technologie change. Oui, le phonographe a révolutionné, oui, Edison, bah oui, d'accord. Mais là, c'est d'une autre nature. Parce que c'est vraiment l'acte lui-même de création, de composition, d'improvisation, comme j'ai montré un peu, d'arrangement, d'accompagnement, dont je pense on ne parle pas assez, mais qui est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont du style, au fond, c'est surtout ceux qui accompagnent, au sens très large du terme, hein. Pas que les guitaristes, mais tous ceux qui produisent ce qu'on appelle la réalisation en musique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une mélodie et puis là, il faut la réaliser, bah, tout ça, ça a beaucoup d'importance. Et justement, je pense qu'il y a toutes ces technologies, il faut voir ça, à mon avis, du bon côté, en disant, voilà, ça va peut-être créer donc des nouveaux types de contenus, hein, ce mot contenu qui est un mot horrible, qui veut dire contenu, c'est ce qui est dans les contenants, c'est la musique, c'est les disques, c'est les livres, c'est tout ça. Et ce que je défends comme idée, c'est que le style, au sens très très large du terme, peut devenir ou va devenir un nouveau type de contenu. Et donc relancer toutes ces questions avec un nouvel éclairage. Voilà.